sourire, un petit sourire au début, après le grand sourire, et on devient bavard un peu plus tard. mais ça se déguste sans modération. Voilà.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission culinaire curieuse et gourmande qui chaque samedi s'émerveille des points communs qui mijotent dans nos marmites, des fils et des connexions tissées au cœur de notre histoire, puis oubliées et qui ressurgissent et vous emportent cette sauce, ce fruit croqué, et nous voilà ailleurs, ou plutôt de retour chez nous, parfois. Il y a des terres et des îles qui se font, plus que d'autres, encore l'écho des soubresauts de la construction du monde. Dans la langue, les mots à double sens et la cuisine, au goût sincère, fruité, parfumé, fumé, pimenté, nous voilà bien loin d'ici. Voyons, je vois, on est dans les Caraïbes, un archipel, la Guadeloupe, plus au sud, la Martinique, Sainte-Lucie, les Barbades. On est ailleurs et juste ici, on vous promet aujourd'hui de la chaleur, du pimenté, du coloré, de la saveur avec nos guides du jour. Cap sur les Antilles, bonjour Sébastien Jean-Joseph.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinier chez Bayetta et au bar à manger carabéen qui s'appelle Beau. Alors on va dire un petit peu l'un, l'autre et tout ça. Mais vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui parce que nous sommes en ligne également avec Grégory Anelka. Bonjour.
Bonjour Clémence.
Vous allez bien ?
Ça va bien et vous ?
Très bien. Donc Sébastien Jean-Joseph, Grégory Anelka sont deux associés, deux acolytes et ils forment un trio avec la chef Julia Sedev-Djian que nous avions reçue évidemment dans Le Goût du Monde. Qui est la chef du restaurant Bayetta, qui veut dire petit bisou en niçois. Et j'ai découvert que Beau voulait dire aussi petit bisou.
En créole.
En créole. Donc on est bien tous dans un monde de bisous qui s'annonce. Ça me va pas mal.
Exact.
À l'un, à l'autre, donc peut-être à Grégory. Il n'est pas là avec nous en studio, malheureusement, parce que la pandémie fait que nous ne pouvons pas être plusieurs en studio, mais on va faire comme s'il était avec nous, malheureusement.
Le cœur y est.
Voilà. Donc, je vais vous demander à l'un à l'autre, est-ce que j'aimerais bien, en fait, que vous nous transportiez bien chez vous, parce que vous êtes Martiniquais tous les deux, je crois. Je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, j'aimerais bien savoir.
100%.
Bon. Alors, imaginons que nous sommes autour d'une table, là, réellement, mais pas ici, à Paris, dans un studio. Avec quatre murs et un plexiglas pour nous protéger du Covid, mais chez vous en Martinique. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table, Grégory ?
Dans un premier temps, je dirais une bouteille de rhum.
Avec modération.
Avec modération. Une bouteille de rhum vieux, il y a des acras, morue et titiri. Ce sont les petits poissons. Enfin, Sébastien pourra mieux expliquer que moi. C'est lui le cuisinier, c'est lui qui sait les faire. Moi, je sais les manger.
Donc des titiris, des acras, un peu de rhum, quoi d'autre encore ? Des fruits peut-être ?
Non, pas de fruits pour commencer. On se chauffe un peu la gorge avec ces choses-là. Du boudin, le boudin créole, bien épicé comme on aime. Et un petit bout de famille.
Oui, forcément, un petit bout de famille autour de la table. Sébastien ?
Je pense être assis à côté de Grégory. et je sens une odeur de boucané autour de cette table. Qui parfume un petit peu tout ce qu'on est en train de manger. Je pense que Grégory a oublié le féroce qu'il n'a pas vu. Mais c'est parce que j'ai dû tout manger.
Oui, non, c'est moi qui l'ai mangé hein, avant que vous attiriez dans ce studio.
Et puis je sens du poisson mijoté, un petit blaf par exemple.
Alors ça, c'est toute une histoire ce blaf, parce que j'ai découvert évidemment en travaillant sur la gastronomie antillaise, le blaf. Pourquoi on appelle ça du blaf ?
Je ne saurais répondre à cette question.
Ah, mais c'est moi qui vais vous aider alors, parce que j'ai lu Goût d'Antille. Goût d'Antille qui est publié chez Mango, qui est écrit par Jérôme Bertin, qu'on va entendre pendant cette émission, qui me dit que tout simplement, c'est le bruit que fait le poisson quand il tombe dans la marmite. Blaf.
D'accord.
C'est pour ça qu'on appelle ça blaf. C'est un courbouillon en fait ?
C'est un courbouillon de poisson tomaté, en général, et servi avec par moments des légumineuses de chez nous, donc fruits à pain, dachines. Patate douce, banane jaune.
Alors, dachine, je ne connais pas du tout.
C'est le chouchine. On appelle ça aussi chouchine. Voilà, c'est une racine assez épaisse qui, quand elle cuit, devient grise. Ça peut être apparenté à de la pomme de terre pour ici. Ce sont des gros légumes qu'on aime bien manger chez nous.
Alors, Grégory disait, évidemment, il y a un peu de famille autour de la table.
C'est exact.
C'est un impondérable, ça. D'ailleurs, je vous remercie encore, puisque j'ai appris, juste avant le début de cette émission, que vous aviez retardé votre voyage pour aller fêter l'anniversaire de votre mère. Donc, on lui souhaite bon anniversaire.
On lui souhaite bon anniversaire, effectivement.
Et merci beaucoup. Donc, cette famille, elle est indispensable ?
Fondamentale. Ce sont les piliers aussi de l'histoire qu'on essaye de raconter dans nos assiettes. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on s'est construit. Donc ça nous permet aussi d'évoluer chaque jour. Donc on ne mange pas sans la famille à table. Manger seul pour nous est un crime.
D'accord. On ne mange pas même quasiment.
On risque de ne pas manger.
Ouais. Qu'est-ce qui fait cette saveur particulière justement de cette cuisine antillienne, afro-caribéenne ?
Insolite, épicée, colorée, ensoleillée, gourmande.
Généreuse ?
Très généreuse. Mais à la fois raffinée dans les goûts. On a des goûts très marqués, mais qui sont très raffinés. Je pense qu'il y a des fruits qui ont des goûts très fins, il y a des associations qu'on fait, il y a du sucré salé. On a une cuisine qui est très riche. On a un beau terroir qu'on essaye de mettre en avant tout le temps. Et très coloré. Tous nos fruits, toutes nos sauces, tout ça, c'est ultra coloré. Les assiettes chez nous sont vraiment ensoleillées.
Et ce sont des assiettes petites ou grandes ?
Ah non, on mange à 25, je ne sais même pas si on... D'ailleurs, on a un plat où on mange sans assiette qui s'appelle le trempage.
Ouais. Qui porte bien son nom, on imagine bien.
Qui porte bien son nom. Nous sommes debout autour d'une grande tablée et en fait, il n'y a pas d'assiette. L'objectif est de manger avec la main. Donc non, on a des traditions où effectivement nos 6 assiettes il y a, les assiettes sont copieuses et bien remplies.
Et partagées.
C'est ça.
Et largement. Grégory, vous êtes d'accord avec... j'imagine que oui, quand même vous êtes de très bons amis. Donc,
il est assis tout le temps à côté de moi. Il fait partie de la famille.
Mais vous n'êtes pas originaire du même endroit en Martinique, si ?
Non, pas du tout.
Vous êtes ?
Moi je suis de Chelcher et Fort-de-France.
D'accord. Et vous Grégory ?
Je viens de Rivière-Pilote, c'est une petite commune dans le sud de la Martinique.
Vous êtes cuisinier aussi, Grégory ?
À mes heures perdues.
D'accord, donc votre rôle, vous, chez Beau, dans votre bar carabéen, bar à manger, est-ce qu'on peut dire que c'est un bar à manger aussi ?
Oui, puisqu'on met en avant une partie tapas créole qui est accompagnée de cocktails et une belle cave de rhum, puisqu'on a à peu près plus d'une centaine de références.
Quelle est, cette ambiance que vous mettez dans ce bar à manger pour apporter les Antilles à Paris ? Comment vous faites ?
C'est une ambiance qui est ultra conviviale. En fait, on triche pas, on joue pas. Autant on peut mettre en application ce qu'on a appris dans les écoles hôtelières quand on est à Bayeta dans le restaurant gastronomique. Autant à Beau, c'est 100% Grégory et 100% Sébastien, sans filtre. C'est créole, c'est français, c'est convivial, c'est les amis, c'est comme à la maison.
Est-ce que cette chaleur, selon vous, correspond vraiment à cette âme antillaise ?
C'est une culture. Martinique, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé.
Pas encore.
Mais, alors c'est une erreur. Mais aux Antilles, on a ce culte de l'accueil, cet art de recevoir que j'ai rarement vu dans d'autres pays.
D'ailleurs, je crois que c'était même une blague au début de l'ouverture de Beau, quand Beau a commencé à exister et que Bayeta existait toujours. Donc les deux restaurants, on est d'accord, sont à quelques mètres l'un de l'autre. On peut vraiment passer de l'un à l'autre. Et c'est ce que vous faisiez, je crois, Grégory. Et qu'est-ce qui vous arrivait justement quand vous passiez d'une salle à une autre ? Racontez-moi.
Alors c'est très marrant, mais on disait, Sébastien me disait tout le temps que j'étais schizophrène, parce que à Bayeta, on a une étoile Michelin, donc c'est un peu plus conventionnel, on reçoit les clients, bonjour madame, bonjour monsieur, vous avez réservé à quel nom, et hop, fallait que je passe donner un coup de main au bar, et je voyais mes copains, mes amis, et je disais, c'est enfin, ça y est, et puis on commence à parler créole. Et ensuite, je reviens à Bayeta, et en fait, j'oublie que je suis plus à Beau, et en fait, je suis presque en train d'accueillir les clients de Bayeta en disant ça en fait, alors qu'en fait, ils n'y comprennent rien.
Sébastien, vous avez la même approche, évidemment, parce que vous avez tout de suite commencé par parler, et l'un et l'autre d'ailleurs, de la famille et de cette chaleur très importante et qui caractérise cette table et cette gastronomie. Vous diriez que c'est l'âme de cette gastronomie antillaise et afro-caribéenne ?
On va dire que c'est même plus que l'âme. C'est la naissance de la cuisine, pour moi, créole, c'est la famille. Tout est créé autour de ça. En tout cas, comme on nous l'a appris, tout est créé autour de ça. Et c'est vrai que ça donne une chaleur, une ambiance et une couleur à cette gastronomie qui est unique.
Quand on parle de famille, évidemment, c'est pas juste papa, maman, les cousins, entendu. Éventuellement.
Bien entendu. Nous, nos familles sont nombreuses. D'ailleurs, ce qui fait l'histoire aussi de la cuisine créole, parce qu'on a beaucoup de plats en sauce, beaucoup de gros légumes, le tinamourou qui est un plat martiniquais, qui est un plat assez costaud, on peut le manger à la fois au petit déjeuner comme on peut le manger à 4 heures. Voilà, tout a été réfléchi dans la cuisine créole pour manger justement en convivialité. Alors quand on dit famille, ça peut être famille, amis, ça élargit le terme, mais en tout cas, on n'est pas dans une solitude, on mange à plusieurs.
Tout a été créé même dans l'histoire même. De la Martinique, de la Guadeloupe, des Antilles et de l'esclavage à la base,
exact.
Aussi, des repas partagés.
Exact.
Quelle place a cet aspect de l'histoire dans votre aperçu de la cuisine et de la gastronomie ? Sébastien. On a l'histoire du monde dans une assiette.
Exact, ça fait de nous des hommes riches, je parle culinairement parlant, dans le sens où ben, on a des influences anglaises, on a des influences africaines, on a des influences françaises, on a des influences hispaniques. Et ce bassin caribéen dans lequel on vit est d'une richesse invraisemblable en termes de produits.
Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu « Goût d'Antilles », donc le livre dont je parlais, de Jérôme Bertin, c'est qu'il y a le portrait de Jocelyne Berroir, qui raconte donc un de ces moments qu'elle aime bien, c'est de ce plat qui ne peut se faire qu'en famille, en réalité presque, c'est le crabe farci.
Exact.
Ou alors le pâté en soupe, je crois. Non,
c'est le pâté en pot.
Le pâté en pot, donc c'est une soupe faite de légumes et de viande qui nécessite, pas comme un pot-au-feu où on met tout en gros tronçons en cuisine française, là c'est coupé en tout petit, donc c'est vraiment toute la famille qui est impliquée dans la confection.
Ah, c'est exact. Je vous donne un exemple. Quand ma mère préparait le pain au beurre chocolat, qui est une tradition chez nous, bah pour éplucher les cacahuètes qu'on appelle pistaches chez nous, pour éplucher les pistaches, elle sollicitait toute la famille, parce qu'il faut des kilos de pistaches pour réaliser un petit pain au beurre. Donc, ça devenait tout de suite, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a emmené vers ce métier-là aussi, parce que ça demandait tout de suite une habilité, une petite main, le petit coup de main pour aider la personne qui cuisine et pour mettre sa main à la pâte.
Si je vous demandais un plat qui, pour vous, signe, ou en tout cas, se fait vraiment l'écho de la cuisine antillaise.
Réduire à un plat, c'est compliqué.
Oui, bien sûr.
Et puis forcément, je serai influencé par mes goûts. Mais j'avoue que tous les mijotés chez nous, tous les mijotés ont une saveur particulière, parce qu'en étant petit ou grand, les mijotés, on passe devant. On nous demande de sentir, de savoir si c'est assez pimenté, si ça sent correctement. Voilà, c'est tous ces petits mijotés, en tout cas dans mes souvenirs, c'est tous ces petits mijotés qui... Là où on commençait vraiment à comprendre et sentir tout le travail et tout l'amour qu'il y avait derrière tous les plats.
D'accord, c'est une éducation presque.
Quand je dis je parle du migan de fouille à pain, je parle du ragoût de cochon, je parle... On a des gens qui font un très bon coq au vin aussi chez nous. Donc voilà, je parle de tout ça.
D'accord. Grégory, et vous, quel serait ce plat ?
Indiscutablement, ça sera le tina morue. Les tina morue sont les bananes vertes avec la morue qui est dessalée au préalable. Et ensuite, c'est accompagné. On peut rajouter plein de choses à côté, mais chez moi, mon père le faisait très, très bien. Et comme disait Sébastien, ce sont des plats qu'on peut manger soit au petit déjeuner, soit au déjeuner, ou bien même quand on a faim l'après-midi, on fait quasiment toute la journée. On est des gros mangeurs. Et il accompagnait ça d'une salade de concombre, d'une petite sauce qu'il y a de Joel Polinus. C'est le groin de cochon qu'on coupe en petits morceaux et qu'on travaille avec des oignons, avec des herbes et qui est assez pimenté. Et puis beaucoup d'huile. Parce qu'on aime le gras.
Mais quelle huile ?
Une huile bio.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Je vois.
la divinité de Perfecta sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes un boquita à la main et un petit poche dans l'autre. Enfin, pas pour de vrai, mais on aimerait bien. Nous sommes dans les marmites antillaises avec à notre table les deux hommes du trio Beau Bayetta. Sébastien Jean-Joseph avec nous en studio et Grégory Anelka en ligne. Dans notre marmite mijote à tout petit feu, un plat de d'ombré au wassou, un fricassé de lambi, un ragoût au pois d'Ibois. Vous sentez, ça sent bon, non?
Ça sent les épices.
Hein, ça sent les épices.
Ça sent chez moi, ça.
Là, j'ai donné plusieurs noms de plats. Et ce qui est incroyable avec ces noms de plats, c'est qu'on n'y comprend rien. Par exemple, le dombré, la première fois que j'ai vu dombré, qui pourtant fait saliver littéralement et très concrètement Claudicia, la première fois que je lui ai dit quel est ton plat préféré, il m'a dit « Ah, le dombré !»
C'est vrai.
Et il y avait sa voisine, guadeloupéenne, il salivait concrètement.
Ça fait sourire, hein. Vous avez vu quand vous avez évoqué tout ça, ça m'a fait sourire, parce que c'est comme on vous disait tout à l'heure, c'est la convivialité. Ça évoque, ben, ce sont des petites boules de farine et d'eau qui sont cuites dans un ragoût et qui deviennent assez molles. Et en fait, ben, ça sent les épices, ça sent le pimenté, ça sent la joie de vivre. Mmh. Ça appelle le rhum. Et je dirais que c'est une gastronomie joviale. Vous parlez à un Antillais de sa gastronomie, il aura d'autant plus l'eau à la bouche, mais en tout cas le sourire sur ses lèvres. Mmh. Et c'est ça qui est beau.
C'est une sorte de truculence en fait. On se réjouit réellement du partage qu'on va pouvoir faire. Exactement. De quelque chose. Je me souviens très très bien, parce que quand j'ai posé cette question à Claudie, il était dans son bureau, il était concentré, j'ai dit « est-ce que je peux te déranger de poser cette question ?» Et le temps s'est arrêté, il y a eu une parenthèse, et là tout à coup il m'a parlé de dombri, il m'a parlé d'autre chose, et c'était... Temps arrêté, parenthèse, nous sommes ailleurs.
C'est ça. Et on essaye de vous transporter avec cette gastronomie-là.
Ouais, en te disant, mais regarde, le jour où tu pourras goûter, tu
vas,
j'espère que je serai avec toi.
C'est ça.
En tout cas, pense à moi parce que ça va être super de le goûter.
C'est ça.
J'ai posé la question aussi à Jérôme Bertin, qui a écrit Goût d'Antilles, et voici ce qu'il m'a répondu au sujet du plat qui pour lui signerait.
Alors pour moi, je n'ai pas vraiment de plat qui signe mes traditions, c'est vraiment... Pour moi, les produits locaux, en fait, j'ai vraiment le souvenir avec mon père, avec son petit jardin, les légumes, les fruits, les herbes, tout ça. Et entre voisins, il y avait cette sorte de troc qui faisait, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui ramenait de la patate douce, son voisin qui ramenait du bois d'Inde, tout ça. Et pour moi, qui me ramène vraiment à mes traditions, à ma culture, au niveau de la gastronomie, ça va être vraiment le potager de mon papa, en fait. Voilà.
Le potager du papa de Jean Bertin. Je crois que c'est un peu une tradition, ça aussi, quand on va chez quelqu'un. Racontez-nous, Sébastien.
J'ai pas eu la chance d'avoir un potager dans mon jardin,
mais
malheureusement.
Mais de quelque chose de chez soi.
Mais effectivement, nous, on a cette tradition de, si on a envie de partager, on ramène quelque chose. Et en général, ben, on a de belles surprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise tout. Comme disait Jérôme Bertin, je pense que on peut très bien utiliser le bois d'Inde pour parfumer les plats. Donc c'est un petit peu le laurier antillais.
Mais ça a quelle saveur? Juste, on fait une petite parenthèse, parce que j'essaye de comprendre.
Ça a la même saveur que le laurier, en un peu plus fumé et un peu plus puissant. C'est une sorte de feuille et qu'on peut même faire sécher pour les infusions. Je me souviens que ma grand-mère faisait des infusions au bois d'Inde pour la digestion. Après, on est très plante médicinale. On a été porté dessus très jeune, donc on utilise les plantes, la citronnelle, de la menthe poivrée, des choses comme ça. Et tout le monde, effectivement, lors des repas, quand on se réunissait, ramenait quelque chose, donc soit de préparé, soit à préparer. Et je comprends le troc dont il parle, où c'est plus apporter pour ne pas venir les mains vides et apporter, ben, un petit truc de chez soi. Ma grand-mère avait un arbre à pain, donc on prenait les fruits à pain. Après, on allait chercher des goyaves dans le jardin à côté, chez la voisine. Ben, comme on pouvait cueillir, ben, on croquait dans deux fruits et on lui ramenait le reste. Voilà, c'est un petit peu ce partage entre familles qui fait sourire chez nous et qui est beau.
Ouais, qui fait sourire pas que chez vous, chez moi aussi. Les auditeurs devraient voir ma tête sous mon blasque. Grégory, vous êtes d'accord, vous aussi, vous avez des souvenirs également de ces fruits ou de ces échanges et de ce troc généreux et partagé?
Ah, complètement. Et puis, de toute façon, chaque plat nous ramène à un moment de notre enfance. En fait, c'est aussi ça. C'est pas seulement le côté jovial, mais... Surtout quand on est loin, comme nous, on est à 8000 km, chaque fois qu'on a une senteur, qu'on a une épice caribéenne, antillaise, de notre terroir, ça nous ramène à des moments de notre enfance. Donc il y a une certaine nostalgie.
Ouais, il y en a une pour vous qui est particulièrement significative.
À moi, c'est l'odeur quand ils font réchauffer soit le boudin ou le ragoût de cochon. Alors ça fait porc sur porc, j'entends, n'en déplaise à certains. Moi, ça me parle. Hein. C'est-à-dire que l'odeur du ragoût de cochon, je peux la prendre à 6h du matin, ça me va très bien.
Je vous propose justement, il y a un charcutier français qui s'appelle Gilles Véraud, oui, et qui a été complètement charmé par ce boudin. Justement, le boudin chaud, je crois même qu'on dit.
Aux Antilles, la charcuterie est très très populaire. Les Antillais mangent beaucoup de cochons, ils aiment beaucoup, ils cuisinent beaucoup. Et le boudin antillais, bien sûr, avec les acras, fait partie des recettes les plus emblématiques. Moi, j'ai un souvenir de la Guadeloupe, où j'y suis allé pour la première fois, j'avais 16 ans, pour le mariage de mon cousin qui allait s'installer là-bas. Et en fait, il existait un petit faiseur de boudin antillais. Enfin, on disait boudin, bien sûr, là-bas, boudin chaud, qui tous les soirs à 17h sortait sa tournée du jour, et en rentrant de la plage, plutôt que d'aller s'acheter une glace, un sorbet coco, nous on allait s'acheter du boudin noir, on se prenait une bouteille de choix, c'était, je sais même pas, c'était pas de la limonade je crois, parce qu'à l'époque on buvait pas trop d'alcool, et puis un peu de pain, et voilà, c'était le goûter en fait. Vous savez comment se mange le boudin antillais?
Non, expliquez-moi.
Bah, le boudin antillais, en fait, il se coupe pas avec un couteau, mais on va aspirer le boyau pour manger cette farce chaude. Il se poche et ensuite on le fait glisser dans la bouche et tout. C'est génial.
On y est là, non?
La description me fait saliver.
Elle est pas mal, quand même. Gilles Véraud aussi, quand il en parlait, il était là, il se revivait un petit peu. Ah,
c'est quelque chose, mais oui, on aspire le boudin. On a une manière particulière de le manger. On mange pas la peau. Et donc, du coup, ça nous permet de récupérer la chair à l'intérieur et d'avoir ce côté un petit peu gras en bouche, épicé, avec cette texture particulière. Et quand il est chaud, c'est quand même assez exceptionnel.
Ça a l'air assez divin. Est-ce que c'est une cuisine que vous qualifieriez de traditionnelle ou encore beaucoup sur les ragoûts, justement, dont vous parliez?
Non.
Ou qui évolue?
Non, elle est en train clairement d'évoluer. Il y a une génération de jeunes chefs qui débarquent, dont Jérôme Bertin, il y en a en Guadeloupe, en Martinique.
Dont vous, parce qu'il a dit que vous étiez un peu des représentants de cette nouvelle garde de chefs avec une nouvelle saveur et une nouvelle appréhension.
Une nouvelle vision de la cuisine. C'est vrai qu'on a tous, on est tous venus en métropole pour pouvoir s'inspirer aussi d'autres. Il y a Monsieur Harold Janville aussi que j'ai envie de citer, qui est en Martinique. Voilà où on a un autre regard de cette cuisine qui était vachement porté sur la tradition, et on est en train d'un petit peu la moderniser, alors avec les interprétations de chacun, hein, ça s'entend, mais j'avoue qu'il y a des personnes très talentueuses qui manient les produits avec amour et délicatesse et avec un savoir-faire grandiose.
C'est important de préserver ce produit, j'ai l'impression qu'il est au centre, ce produit, quand même, de tout.
L'objectif pour tous les chefs que j'ai cités, quand on essaye de manier un produit, on ne veut pas le dénaturer, parce que on a été habitué à la base à manger des produits bruts quasiment, et donc du coup le travailler, c'est pour nous ne pas le dénaturer, et c'est ça le gros travail qu'on est en train de faire, je pense, tous, pour réussir à travailler quelque chose tout en gardant le poids des traditions sur notre dos.
Je pense notamment au féroce d'avocat. Alors le féroce, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
Non, grand débat.
Avant le débat, déjà dire ce que c'est.
Alors c'est une purée d'avocat avec de la morue effilochée.
Pas n'importe quel avocat.
Avocat pays.
Avocat pays.
L'avocat pays chez nous.
Il y a un gros avocat.
Gros avocat, bien charnu, un peu sucré, bien vert, enfin avec de belles couleurs. L'avocat, on essaye de le faire mûrir un petit peu pour qu'il s'écrase facilement. Donc on le fait mûrir dans du papier journal. Une fois qu'il est bien mûr, on commence à l'écraser. On fait au préalable des salés de la morue. On l'émiette, donc ce qui va nous donner ce côté un peu chic thaï, ce qu'on appelle chic thaï de morue.
Déchiqueté.
Voilà, c'est exactement ça. On l'assaisonne, donc carottes, oignons, clous de girofle, concombres. Et une fois que tout ça s'est assaisonné, on mélange la purée d'avocat avec cette chic thaï de morue et on la monte à la farine de manioc.
D'accord.
Donc on la monte à la farine de
manioc.
Quand
vous dites on la monte, ça sert
à... On mélange avec de la farine de manioc. Alors de manière suffisamment énergique, moi j'aime bien que ce soit énergique pour pouvoir incorporer un petit peu d'air aussi là-dedans, d'accord, que ce soit un petit peu plus léger et crémeux. Je préfère mon féroce un petit peu plus crémeux et non pas très compact. Après, ça dépend des goûts, des histoires. Mais on la monte à la farine de manioc et ça donne... Alors, Moi, par exemple, typiquement, un plat comme ça, je n'aime pas le dénaturer parce que je trouve que le moderniser, en tout cas quand j'ai essayé, moderniser ferait perdre de la saveur à ce plat.
N'apportait pas grand-chose en définitive.
C'est ma vision des choses.
Grégory ?
Sur le féroce, il y a un petit débat entre Sébastien et moi, parce que sa maman et la mienne ne font pas le féroce de la même manière.
D'accord.
Celui de sa maman est plus crémeux.
D'accord.
Et celui de ma mère est un petit peu plus sec, avec un peu plus de farine de manioc.
D'accord, ok.
C'est parce qu'il avait l'estomac plus costaud.
Oui, moi, fallait me caler. Donc c'est vrai que dès qu'on a fait le gouillé, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus sec, un peu plus crémeux. Après, ce sont des problèmes de riches. Hein.
Est-ce que la farine de manioc, justement, contribue au fait que ce soit nourrissant ou c'est juste... Alors, Sébastien, il fait un... ça plombe l'estomac.
Manger de la farine de manioc et puis buvez un verre d'eau derrière, vous allez me dire si c'est nourrissant ou pas.
Eh bien, écoutez...
En principe, oui.
En principe, oui. En tout cas, c'est emblématique, le féroce d'avocat. C'est la Martinique plus que la Guadeloupe, en tout cas.
Les deux îles le font. C'est un plat très traditionnel chez nous. En vrai, il y a féroce, boudin, accra. Je pense que ça c'est commun aux deux îles. Après, il y a des typicités sur les deux. Maintenant, pour être chauvin, je dirais que la Martinique a une plus belle gastronomie.
Bon, vous répondrez aux auditeurs. Grégory, on est d'accord?
Écoutez, vous voulez que je me mette la Martinique à dos?
Non, absolument pas. Tous les deux, vous n'avez pas évoqué un produit qui, pour moi, me semble un peu emblématique, cependant, le feu.
C'est là où il y a débat entre Grégory et moi.
Là, encore un débat.
Je vois tout de suite où vous voulez en venir. Mais...
Alors, je vous propose d'écouter peut-être Suzy Palatin, qui est cuisinière guadeloupéenne. Oui. Et donc amatrice de ce dont nous allons parler.
Le piment, c'est comme le sel, ça se dose. On met plus ou moins selon ce qu'on va supporter. Il y a des gens qui sont très, très amateurs de piment. Allez, je vais parler de mon grand-père. Il mettait 7 ou 8 piments, même une dizaine de piments à côté de lui. Et il les croquait comme ça pendant qu'il mangeait. Parce que malgré la chaleur du piment, malgré la force du piment, il savait trouver les goûts de tous les autres aliments qu'il mangeait. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont du piment, ils ne savent plus apprécier quoi que ce soit. On n'est pas égaux devant le piment. Moi, je sais quelle est ma dose de piment, je peux pas aller plus loin. Ma mère, elle est beaucoup plus forte, mon grand-père encore plus. Mais il retrouve le goût de tous les aliments quand même. Parce que le piment, ils apprécient sa force et son parfum en même temps. Et tout le goût des autres aliments.
Ça s'apprivoise, le piment, nous dit Suzy Palatin. Alors, c'est très drôle parce que quand on l'écoutait, Sébastien a fait une tête.
Ah, clairement.
On ne peut pas.
Je suis entièrement d'accord avec elle. Ça s'apprivoise parce que je ne vais pas dire que je supporte pas du tout le piment. Je peux manger pimenté. Mais je suis dans une autre démarche, un autre objectif où c'est un ingrédient emblématique de notre terroir. Faire avec, oui, mais laisser les gens le doser. C'est pour ça que j'essaye de cuisiner épicé. J'essaye de cuisiner savoureux, mais sans rajouter du piment. Et laisser les gens, justement, apprécier ce côté où eux décident de graduer ou pas en fonction...
De rajouter ou pas en fonction
voilà,
de leur
en
goût.
En fonction de leur goût. Parce que moi, j'ai eu des expériences avec le piment qui étaient un poil traumatisantes.
Mm-hmm.
Je suçais le pouce et
pour renoncer au pouce,
on me trempait mon doigt dans du piment.
Ah bah, il y a de quoi détester le piment.
Vous imaginez bien que c'est pas le produit que je préfère.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored down. Starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. back. Love is back.
Love is Back de Céleste, tout nouveau titre de cette Britannique. Elle a une chaleur dans la voix qui est assez magnifique. On aime les amours chaloupés dans le goût du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes donc avec Sébastien Jean-Joseph. Et au bout de la ligne, quelque part dans Paris, Grégory Anelka, tous les deux sont de chez Beau, un bar à manger caribéen. Afro-caribéen qui est donc dans le Marais à Paris où les nuits se perdent dans la chaleur et la générosité. Nous parlions évidemment de piment qui est un ingrédient dont personnellement je suis fan, que j'ai appris à apprivoiser également et dont Sébastien me disait, Grégory, que vous, vous aviez appris justement à le présenter, à le manier.
Ah non, mais alors, oui, c'est vrai que contrairement à Sébastien, comme on dit chez nous, moi, j'aime manger piment. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'en mange des tonnes, j'en mets presque trop, mais la saveur du piment, j'arrive là où on voit, d'autres voient une force qui est désagréable. Le côté piquant qui peut être désagréable, moi je ne vois que plus de saveur. Donc je mets du piment tous les jours, dans tous mes plats, et ça m'empêche pas nécessairement d'avoir le goût, mais je pense que mon palais est immunisé. Mais ça c'est depuis petit, j'ai mangé du piment, j'ai eu la chance de ne pas sucer le pouce, comme d'autres. Donc du coup, on m'a pas mis de piment sur le pouce. Et donc du coup, j'ai vu qu'une partie plaisir et pas une partie punition dans ça. Et maintenant, dans ma famille, tous, on mange beaucoup, beaucoup de piment, qu'il soit confit, qu'il soit frais, notre fameux bon dame en Jacques, dont je tirerai la traduction.
Non, pas du tout, parce que moi, je vais vous la donner, la traduction. Parce qu'il y a un autre.
Ah ben alors, je me fais une joie de la lire avant.
Ah non, parce que je me ferai une joie de vous faire écouter Eric Amien.
La qui est traduction notre... littérale vaut mieux pas.
Si, 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 mais vous êtes bien prude, je trouve.
Je trouve aussi.
Je vous propose d'écouter Eric Amien, notre collègue guadeloupéen, bien sûr, hein, qui lui... Et moins prude que vous.
Le piment, bon dame en Jacques, hein, c'est le piment donc célèbre aux Antilles. C'est un piment qui mesure pas plus de 5 cm. Mais c'est un piment très, 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 très fort. Alors, je dois donner la traduction de bon dame en Jacques. Bon dame en Jacques, c'est comme si on dirait les fesses, le cul de madame Jacques. Et en fait, je suppose que c'est parce que, bon, on dit chez nous aux Antilles que, bon, les personnes âgées qui ont beaucoup de niaque, beaucoup de force, ont beaucoup de chaleur. Donc, je suppose que donc c'est par rapport à cette chaleur qu'on appelle ce piment bon dame en Jacques. Et je t'assure que c'est un piment qui est très fort. Alors, un plat, il y en a beaucoup, hein, puisque bon, on peut trouver le piment dans les acras, les colombos de cabri, tout ce genre de plat. Mais moi, je retiens le confit de Arensor préparé par une amie martiniquaise quand je suis arrivé à Lille. Tu vois déjà
le nord de la France,
le froid l'hiver. Et cette amie martiniquaise avait préparé le confit de Arensor. Alors, ce sont des harengs fumé, salé, mélangé avec quelques bouts de carottes, des branches de cive, un peu d'oignon, et on laisse macérer tout ça. Et on peut manger ça, bien sûr, avec du pain, mais moi, je préférais avec le riz. Et je t'assure que le froid qu'il faisait à Lille, ça réchauffait énormément avec le piment bon dame en Jacques et ce confit de Arensor. Ça brûle, mais il y a une saveur.
Ah, il y a une saveur. Eric Amien du Club RFI, on est d'accord sur la tradition, messieurs ?
Chacun
est d'accord sur la tradition, après c'est joliment dit. Ça gomme la trivialité.
Avec le sourire en plus.
En tout cas, je crois aussi que le piment est un bon allié du rhum.
Pas spécialement, je bois beaucoup de rhum et très peu de piment.
Grégory, notamment dans les cocktails que vous pouvez servir chez Beau, comment est-ce que vous alliez ? Est-ce que le rhum nourrit le piment nourrit le rhum ?
Alors, c'est vrai qu'on est sur un accord mets-rhum, enfin mets et boissons qui matchent bien entre le rhum et le piment. Et d'ailleurs, notre cocktail phare au bar à manger caribéen, c'est le Bobo. Où on est sur une base de quartier de citron vert qui sont pilés au mortier. On met du miel du pays. Et alors, pour convenir à tous les palais, on met un petit peu de poudre de piment Bondamanjac, mais très très légèrement, qu'on fait déshydrater avant et ensuite qu'on réduit en poudre, et on met une moitié de piment végétarien. Et tout ça est allongé au rhum Dieu.
Le piment végétarien, on est d'accord qu'il apporte le fruit et la saveur et pas du tout le feu.
Et le côté floral qui est le plus intéressant.
Du coup,
c'est très aromatique.
Il met tout le monde d'accord, le végétarien.
Mais c'est ce piment qu'il faut utiliser.
Le Bondamanjac, est-ce qu'on peut le trouver partout ou il est vraiment typique des Antilles?
Je pense qu'il est typique des Antilles. Je l'ai jamais rencontré. Bon, bien entendu, on peut tout le trouver dans tous les commerces, dans toutes les petites épiceries antillaises, que ce soit sur Paris ou autre. Il y a d'autres piments caractéristiques. J'ai en tête le piment mexicain là qui pique. Je crois que c'est Maroga Scorpion.
Un peut-être.
Sainte-Lucie a un piment un petit peu particulier aussi, mais c'est pas le Bondamanjac. Nous, c'est vrai que, comme dans la description, il fait pas plus de 5 cm. Il est vert, orange, jaune. J'ai du mal, j'ai déjà chaud.
Bah, on va vous apporter un petit peu de douceur. Allez, dites-moi. Parce que je propose un petit peu de, peut-être un sorbet coco.
Intéressant, fraîcheur.
Ah, oui.
Fraîcheur, voilà.
Fraîcheur.
Vous voyez, ça m'a détendu.
Ah, tout de suite.
Tout de suite. Fraîcheur, le côté sucré.
Se sont évanouis les perles de sueur sur votre front.
C'est ça. Ma mère avait une sorbetière et je m'amusais tous les dimanches à faire des sorbets de toutes les sortes. Que sorbet Kenneth, on a fait. C'est un petit fruit avec un noyau qui est très rare.
Quelle
couleur? Un petit fruit vert. On croque dedans pour casser la peau, on enlève la peau, on a la chair et à l'intérieur il y a un petit noyau et on dévore la chair dans notre bouche. Le diamètre c'est une bille et c'est vachement savoureux, c'est un fruit typique de chez nous aussi.
Très sucré ?
Très sucré. Mmh. Très sucré avec un petit goût acide aussi. On faisait des sorbets au tamarin aussi. Mmh. Le tamarin des Indes. Mmh.
Ça c'est
exceptionnel. Très peu de sorbet coco parce que c'était très conventionnel et classique, mais, mais on essayait un petit peu.
Excusez-nous du peu. Grégory, est-ce que vous faisiez des sorbets coco? Vous savez, vous plein de choses chez vous?
Ah ben, c'est sorti de plage. C'est-à-dire que vous aviez monsieur qui disait qu'à la place du sorbet coco, il allait chercher du boudin en sortant de la plage. Mais moi, j'avais déjà mangé du boudin quand j'étais à la plage. Donc en rentrant, c'était le sorbet coco. C'était sine qua non pour nous. Soit ça, soit on s'arrêtait quand on allait à Sainte-Anne, on s'arrêtait chez une petite dame qui faisait des Robinson. C'était des gros gâteaux. Il y avait une couche de confiture de goyave, une couche de banane, une couche de confiture de coco. Et voilà, et c'était terminé. Hein. On rentrait, moi je dormais sur la route et tout était réglé.
Du Robinson, d'accord, on notera. Mais le sorbet coco, en fait, ça a l'air juste délicieux. Il faut... Tout le monde a une sorbetière ou on peut faire ça sans sorbetière?
Non.
Sorbet coco. Il faut.
Moi, avec la tradition, c'est un pain de glace. Donc, pour la sorbetière, c'est un pain de glace qu'on met. On prépare l'appareil à sorbet coco. On le prépare dans un petit récipient qui entoure la sorbetière. Et en fait, en moulinant, bah, ce petit récipient tourne autour du pain de glace et donc du coup ça fait prendre. Et avoir une sorbetière, ça donne vraiment un autre aspect. Parce que c'est fait à la main, ça donne beaucoup de, il faut beaucoup de force. On était à 3-4 à se relayer pour faire des grosses quantités. Mais ça donne un autre aspect parce que ça frotte au fur et à mesure contre la glace. Et donc, du coup, forcément, ça lui donne un aspect beaucoup plus crémeux.
Comme si on l'a pilé en glacé.
Exactement.
D'accord.
Donc, ça lui donne un aspect crémeux, un aspect assez doux, très léger. Et en fonction de l'appareil, plus ou moins sucré.
D'accord. Donc, on a de la pulpe de coco.
Pulpe du coco.
Du lait concentré sucré.
Lait concentré non sucré, de la cannelle, du citron vert.
D'accord. Donc on n'ira pas vers des épices qui sont plus vertes, comme moi je pensais feuilles de curry. Non, pas du tout.
Pas du tout. Ça c'est plus pour, on l'utilise plus pour le salé ou bien pour, comme je vous disais, pour les infusions parce qu'on est très plante médicinale. Et pour les infusions, mais pour le sorbet coco, ce que ma mère faisait. Après, je ne juge pas.
Ah, mais c'est forcément la meilleure des cuisinières. Ah,
forcément.
Et celle de Grégory. Pardon.
Ma mère mettait un petit peu de lait de coco pour accélérer le processus. Mm-hmm. Parce qu'il avait déjà une consistance qui était intéressante. Et voilà. Et puis, à la force du bras, il fallait tourner pour donner cette onctuosité.
Ouais, très féminine, cette cuisine. Cette gastronomie, ou alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes.
Il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent chez nous, parce que c'est aussi une tradition. Moi, je me souviens qu'on avait un barbecue Tout le monde y passait, des enfants aux femmes, aux hommes. Quand il fallait mettre la main à la pâte en cuisine, on était les premiers à aider. Il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent chez nous.
Mais pour les boucanés, les barbecues ou pas uniquement ?
Non, même en cuisine pour ne serait-ce que couper. On a des gros légumes, donc il faut un certain nombre de forces. Donc nous, ça nous dérangeait pas. En tout cas, j'ai pas connu une cuisine très très misogyne. Au contraire, c'était ouvert à tout le monde. C'était la personne qui voulait faire goûter, qui allait. Et il n'y avait pas spécialement de femmes en cuisine.
D'accord. C'est un bonheur d'entendre ça.
C'est vrai.
C'est très doux à l'oreille. Mieux qu'un sorbet coco. Vous avez parlé en tout début d'émission, Sébastien, du pain au beurre.
Pain au beurre chocolat.
Du chocolat. C'est avec un gros bâton de chocolat, de cacao.
C'est ça, le gros cacao, on appelle ça.
Le gros cacao. Alors racontez-nous et qu'est-ce que ça permet d'avoir, parce qu'on termine en douceur quand même.
Alors, le pain au beurre chocolat, donc c'est très typique, hein, c'est l'une des traditions aussi chez nous. C'est un chocolat qu'on appelle le chocolat première communion parce qu'on le fait souvent dans les fêtes et choses comme ça. Avec un pain au beurre. Donc le pain au beurre, c'est comme une brioche. Une brioche de chez nous. Il y a la recette, une recette un peu particulière. Bon, fait main dans la tradition pure et dure. Et c'est servi avec un chocolat chaud. Donc c'est comme un chocolat chaud, une brioche. Sauf que nous, on a le pain au beurre chocolat. Et c'est pareil. C'est la même base que le sorbet coco. Donc vous avez lait concentré sucré, lait concentré non sucré, cannelle, citron vert. Ma mère rajoutait un petit peu d'amande amère dedans. Et ensuite, en fait, pourquoi on épluchait les pistaches ? Donc, ce sont des pistaches appelées cacahuètes en métropole. On épluchait les pistaches parce qu'elles faisaient une pâte, une espèce de pâte d'arachide. Et elles liaient ce petit bouillon-là avec le lait concentré à la pâte d'arachide. Et donc, du coup, ça donnait une consistance très intéressante. Et on mangeait ça avec le pain au beurre, donc la brioche au beurre.
Ah, trop bien. Et un gâteau de voyage Giraumont, j'ai vu sur votre carte.
Le gâteau de voyage du Giraumont. Oui, on tente des choses. Écoutez, on tente des choses. Non, mais
le Giraumont étant une courge,
c'est ça,
très très spécifique, donc des Caraïbes. Enfin, la peau est verte, la chair est-elle verte aussi ou pas? Je ne
orange.
Sais plus. Orange, oui, dont on fait la soupe Joumou du Nouvel An
c'est
à Annecy.
Et
de toute façon, c'est sucré, donc on s'en fait avec de l'orange.
C'est une légumineuse qui est un peu sucrée, donc du coup, ça nous permet justement de la travailler un petit peu en dessert. On a voulu faire un cake au Giraumont qui était plus ou moins réussi, avec un sorbet coco dessus, vous voyez,
trop
comme
bien.
Quoi.
Et le chaud d'eau, alors ?
J'étais pas très fan du chaud d'eau.
D'accord, qui est une sorte de lait sucré, en
c'est
fait.
Ça, un
lait...
C'est ça, presque... C'est Grégory qui peut vous parler
Grégory.
Du chaud d'eau, parce que Grégory, il en a mangé et mangé et remangé.
Et mangé et remangé, un dessert maintenant qui peut se manger toute
ah,
la journée, Grégory.
Oui, un dessert, en fait, je dirais que c'est un peu l'homonyme du pain au beurre chocolat.
Voilà, c'est ça.
Avec une forte saveur d'amande. Et puis le gros gâteau type pain doux, un petit peu, qui est servi à côté et qui est à tremper dedans, qui est un peu comme notre pain au beurre. Enfin, qui n'est pas du tout la même texture, mais ça a la même fonction.
Ça c'est a la même fonction.
Justement,
ouais.
Dans la boisson sucrée et le mettre en bouche.
En tout cas, ce qui est super dans cette gastronomie, c'est qu'aussi à chaque fête, ces plats, on a vraiment un calendrier assez délicieux qui se déroule. C'est déjà la fin de cette émission, c'est quand
ah
même
non.
dingue. Bah
ah
si.
Non. On n'a pas
tout s'est
parlé.
Passé crème,
ah.
On est d'accord. Hein. Tout s'est bien passé. Peut-être que Jérôme Bertin a une petite question pour vous deux. Je vous laisse l'écouter.
Alors ma question, c'est comment voyez-vous la cuisine des Outre-mer dans 10 ans en métropole, pourquoi pas aussi en Europe et aussi dans le monde? Voilà.
Alors Sébastien.
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a eu des modes, des effets de mode dans les grandes métropoles et surtout, je vais parler de Paris puisque aujourd'hui ça fait 11 ans que je vis à Paris. Je vais parler des effets de mode. On a eu les effets de mode de la cuisine japonaise, après mexicaine, après italienne, qui sont venus par vagues. Je pense que dans 10 ans, ce sera à notre tour. Parce qu'il y a des chefs qui font des choses exceptionnelles avec des produits qu'on est en train de vouloir mettre en valeur tous, en tout cas un terroir. Je parle de cuisine antillaise, hein, je réduis pas ça spécialement à la Martinique. Et ça va nous permettre de nous faire connaître de plus en plus et d'avoir une place, réellement un poids, pour faire découvrir notre terroir, qui est pas très grand, mais très riche en tout cas. Et je pense qu'on a autre chose que la banane à revendre. Et ce serait intéressant qu'en tout cas les bah, ceux qui nous écoutent puissent venir goûter ça, parce qu'on a des réelles traditions. Mmh. Tout est lié en termes de culture, justement, comme on disait tout à l'heure, à des fêtes. Et on a le matoutou à Pâques. C'est vraiment un calendrier.
C'est du crabe.
Exact. Le matoutou, c'est du crabe, mais c'est vraiment un calendrier où bah, à Noël on a des traditions, mmh, comme les pois d'Angole qu'on ne voit pas le reste de l'année. L'été me fait penser aux quenettes, aux fruits. Mmh. Voilà, il y a un calendrier qui est bien spécial, avec une saisonnalité également, et on a beaucoup de choses à revendre encore.
Et tous ceux qui nous écoutent en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique, évidemment, savent très bien de quoi il s'agit.
Ah oui, on a une cuisine qui est très similaire.
Il y a une vraie correspondance. Grégory, vous la voyez comment, vous, cette gastronomie dans 10 ans ?
Ben, je la vois loin parce qu'elle évolue déjà très bien, donc on est vraiment aux prémices de ce qu'on est capable de faire. J'espère surtout aussi que dans 10 ans, on aura vraiment, vraiment conscience de la richesse de notre terroir et qu'on regardera pas les autres faire avec nos produits, et que ça sera des Afro-Caribéens, des Antillais qui porteront haut les couleurs de notre gastronomie. Et votre émission a de ça, de nous recentraliser un petit peu sur la carte du monde.
Ça sert un peu à ça. Un ingrédient, un ustensile quand même, j'y tiens, peut-être, Sébastien, votre ingrédient.
Alors, l'ingrédient. On dira que je voulais parler du poulet, parce que en termes de cuisine afro-descendante, je trouvais que bah, le poulet avait son sens. Surtout qu'on peut faire beaucoup de choses, mais je suis, comme dans une interview, ils avaient dit que j'étais fils de pêcheur, ce qui n'était pas vrai, mais j'adore la pêche. Donc je vais dire le poisson, parce qu'on est dans une île, on reste entouré d'eau, et que je pense que l'ingrédient, et en tout cas le produit, parce que c'est pas réellement un ingrédient, mais le produit que j'aime le plus travailler, c'est le poisson avec toute sa délicatesse.
Et l'ustensile, alors ?
Le barbecue.
Bon, on est d'accord, Grégory, vous êtes d'accord. Vous, votre ingrédient, ce serait lequel ?
Mon ingrédient que j'aime beaucoup utiliser dans la cuisine antillaise, c'est le thym pays. Il est beaucoup plus fort, plus puissant que le thym qu'on peut trouver en métropole. Et l'ustensile, je pense que je vais rejoindre Sébastien sur le barbecue, qui est plus qu'un ustensile, c'est vraiment un art de vivre hein, chez nous.
Ben, je suis d'accord avec vous deux. Donc, on se rejoint quand, là, autour d'un bon barbecue ?
Vous venez la semaine prochaine, vous ?
Oui, c'est vrai. Mais non, vous êtes au pays avec votre maman.
Ben justement.
Ah, j'arrive.
Vous n'êtes jamais venu.
En tout cas, merci
beaucoup.
C'est
le meilleur pain au beurre au chocolat du monde. Hein,
du monde. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne demande qu'à goûter.
Gros bisous.
Merci beaucoup à vous deux,
merci
Sébastien.
Merci à vous
Jean-Joseph
de nous avoir invités. Et puis, on espère vous voir quand les établissements pourront rouvrir.
On espère que tout ça ira mieux pour tout le monde et qu'on puisse retrouver du sourire et de la convivialité et être ensemble à nouveau. Et moins de difficultés, en tout cas économiques aussi. Merci aussi Grégory Anelka qui était au bout de sa ligne. Merci d'avoir été avec nous. Beau et Bayetta, son voisin, rue de Pontoise et rue de Poissy, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Des pokéballs et des plats à emporter, je crois, sont sur la carte de Bayetta, si j'ai bien lu. Donc vous nous donnerez des nouvelles, en tout cas, de vos projets qui sont en cours et qui sont dans vos têtes en ce moment. Goût d'Antilles, merveilleux, inspirant, livre de Jérôme Bertin et Aline Princey, publié chez Mango. Il existe en version digitale. Ça peut être pratique. Quels souvenirs et découvertes avez-vous faites aujourd'hui ? Qu'allez-vous donc mitonner ? Des gnocchis d'igname, peut-être des falafels pois de bois ou un féroce d'avocat. J'ai hâte en tout cas de découvrir tout cela. Le Goût du Monde est sur Facebook et Instagram. Abonnez-vous aussi à notre podcast sur votre plateforme préférée. Merci à Cécile Bonici qui a réalisé ce Goût du Monde. Merci à tous de votre fidélité. À samedi prochain.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Bienvenue au Club.